Nous allons donc continuer le message qu'on avait débuté la semaine dernière. Je rappelle le titre, le mystère insondable de la grâce de Dieu. Le passage que nous étudions est Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors, je vous rappelle qu'on avait donné un petit peu le plan du message qu'on veut expliquer aujourd'hui, qu'on veut partager. Donc, on avait le mystère de la grâce de Dieu qui était exprimé dans le verset 33. Et le mystère de la grâce de Dieu qui était examiné dans les versets 34 et 35, et le mystère de la grâce de Dieu qui était exalté dans le verset 36. On rappelle que le passage de Romains chapitre 11, verset 33-36, est d'une doxologie. Donc ça vient de deux mots grecs, qui est le mot doxa, qui veut dire gloire, et logos, qui veut dire parole, donc parole de gloire. Ça signifie, souvent c'est utilisé dans les Écritures comme conclusion d'une prière, ou comme une bénédiction, ou une promesse, ou un transport, ou un jaillissement d'admiration et d'adoration de la part d'un croyant devant Dieu et ou de son œuvre. La Bible en est remplie. Ici, c'est important de réaliser à quel endroit, à quel moment l'apôtre Paul utilise sa doxologie. Donc, c'est à la fin du chapitre 11. Et j'ai envoyé chacun, vous pouvez avoir le plan du livre entre vos mains. Ceux qui ne l'ont pas, qui écoutent sur Internet, peuvent toujours télécharger le plan du livre de Romains. C'est important parce que si on regarde de pas, le moment où Paul a prononcé cette doxologie-là, on se trouve à manquer un peu le bateau, comme on dit. Vous regardez le plan du livre que je vous ai fait distribuer, vous avez cinq colonnes. Donc la première colonne, vous avez les divisions. Alors l'épître, tous ceux qui ont étudié l'épître de Romains en détail se sont rendus compte qu'il y a des divisions qui sont vraiment assez bien délimitées. Donc, la première division qu'il y a de l'Épître de Romains, c'est chapitre 1 jusqu'au verset 20 du chapitre 3. Donc, 1-1 à 3-20. Et la deuxième colonne, vous voyez le titre, c'est le sujet traité. Donc, dans cette section-là, dans cette division de l'Épître-là, il y a comme un sujet qui est traité. Quel sujet qui est traité? C'est celui de la condamnation de l'humanité. Et dans la troisième colonne, vous avez le titre de la colonne et la question posée. C'est comme si la section posait une question. Et la question est la suivante. Le monde est-il perdu? Et dans la quatrième colonne, vous avez la réponse qui est donnée. Donc la réponse, c'est un oui catégorique, qui comprend plusieurs groupes de personnes, donc les païens, les moraux, donc on pourrait dire que c'est les juifs de l'époque qui croyaient qu'ils pouvaient gagner leur ciel en obéissant à la loi, le décalogue, et il y avait aussi les juifs et le monde. Donc, à quelque part, la réponse qui est posée, c'est « le monde est-il perdu? » et la réponse qui est donnée, c'est « oui, les païens, les moraux, les juifs et le monde ». Et dans la cinquième colonne, il y a quelque chose qui est le titre qui est indiqué, c'est « Ce qui est révélé ». Donc, si on regarde cette section-là, on l'étudie en profondeur, on se rend compte que ce qui est révélé dans cette section-là, c'est la colère de Dieu. Ensuite, quand vous regardez l'autre division qui va du verset 21 du chapitre 3 jusqu'au verset 29 du chapitre 8, quel est le sujet traité? Première colonne, le salut. La question posée pour cette section-là, comment Dieu sauve les pécheurs? Et la réponse est donnée dans cette section-là. Les pécheurs sont sauvés en Jésus-Christ. Et là, dans cette section-là, il explique la justification, la sanctification et la préservation. Et dans la cinquième colonne, ce qui est révélé dans cette section-là, c'est la justice de Dieu. Pas la justice de Dieu comprise selon les hommes, mais vraiment la justice de Dieu définie selon Dieu lui-même dans sa parole. Ensuite, vous avez dans la troisième division, qui va du verset 1 du chapitre 9 jusqu'au verset 36 du chapitre 11. Et là, le sujet qui est traité dans cette section-là, dans cette division-là, c'est le rejet d'Israël. Et la question qui est posée, pourquoi Israël a-t-il été rejeté? Et la réponse qui est donnée au verset 32 du chapitre 11, c'est « pour faire miséricorde à tous ». Et ce qui est révélé dans cette section-là, c'est la sagesse de Dieu. On voit que dans la section, dans la partie qui est grisée là, dans votre livre, dans votre document, vous avez du chapitre 1 aller jusqu'au verset 36 du chapitre 11, vous avez la partie doctrinale de l'Épître, donc la partie où on enseigne des choses, des enseignements qui concernent le salut et qui va jusqu'au verset 36. À partir du verset 36, on change de division et on rentre dans la partie pratique. Donc, la plupart des épîtres de Paul ont une structure similaire. Donc, la première partie, c'est toujours la partie doctrinale, donc l'enseignement. Et la deuxième partie est toujours la partie pratique. Autrement dit, à partir de ce qui a été enseigné, quelles sont les choses qu'on se doit d'appliquer dans notre vie quotidienne. Donc, à partir du chapitre 12 jusqu'à la fin du livre de Romains, c'est une exhortation pratique. Et la question qui serait posée, si on étudie l'ensemble, c'est comment le sauver, doit-il marcher? Et la réponse qui est donnée dans les deux premiers versets du chapitre 12, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Et ce qui est révélé dans cette division de l'épître-là, c'est la volonté de Dieu. C'est important de saisir de faire cette observation-là. C'est-à-dire, quand l'apôtre Paul fait-il cette doxologie qui va du verset 33 au verset 36 du chapitre 11? Autrement dit, il l'a fait après avoir expliqué que la condamnation de l'humanité et que tout le monde est perdu. Dans la deuxième partie, il explique le salut, comment le Seigneur sauve les pécheurs en Jésus-Christ. Et dans la troisième partie, il explique pourquoi Dieu a rejeté Israël et a inclus les païens dans le salut. Alors, la réponse qui est donnée à la question de cette division-là, c'est pour faire miséricorde à tous. Autrement dit, Paul, après avoir écrit et avoir voulu expliquer en détail le plan de salut de Dieu en Jésus-Christ, et après avoir expliqué que Israël a été rejeté dans le but de faire miséricorde à tous, il a un moment d'adoration. Il est véritablement saisi d'une émotion vive, d'un sentiment, d'une sensation, d'un émerveillement, et il veut adorer. Et la chose qu'il dit, c'est que le verset 33 le mystère de la grâce qui est exprimé, verset 33, il y a trois exclamations. Donc, on fait une brève révision de ce qu'on a vu la semaine dernière, et à partir du verset 34, on va se trouver à continuer notre étude à partir du verset 34. Mais aujourd'hui, on va faire une brève révision de manière à se replacer un petit peu dans le contexte. La première exclamation qui se fait dans le verset 33, il dit « Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu. » Donc ici, l'apôtre adore avec beaucoup d'affection, d'enthousiasme et d'émerveillement des décisions divines. Le premier mot qui est utilisé dans le verset 33, c'est « haut ». C'est un peu comme quand, si on monte sur le haut d'une montagne et qu'on voit quelque chose d'extrêmement beau. « Oh, on est porté à exprimer notre joie, notre admiration. » Alors ici, c'est vraiment quelque chose qui est inséré dans le discours, mais comme je vous ai dit, c'est important de saisir, de comprendre pourquoi il le fait à partir du verset 33. Parce que là, il a en mémoire tout ce qu'il a écrit sur le salut en Jésus-Christ à partir du premier verset du chapitre 11, du chapitre 1, c'est-à-dire de Romains, jusqu'au moment qui arrive au verset 33. Et là, après avoir saisi tout ce qu'il a enseigné dans la partie doctrinale, il est saisi d'une grande émotion et il est amené à l'adoration. Et c'est là qu'il dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. » Et la deuxième exclamation qu'il fait, il dit « Que ses jugements sont impénétrables. » Ici, le mot « jugement », les commentateurs que j'ai utilisés sont unanimes pour dire que le mot « Ici, le jugement fait référence au décret de Dieu. Les décrets de Dieu, c'est les décisions que Dieu a prises de toute éternité dans son conseil divin entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit concernant les choses du salut qui devaient arriver pour les hommes. Et alors, il a expliqué, alors ici, il est en train de dire que les décrets de Dieu sont impénétrables. Impénétrables, ça veut dire que Dieu est en train de rappeler à l'homme qu'il y a des choses dans le salut qu'on ne comprendra jamais exhaustivement dans toute sa profondeur, dans toute sa richesse. On peut se rappeler à cet égard-là un verset de Deutéronome, chapitre 29, verset 29, qui dit « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Alors ici, c'est important de saisir que, autrement dit, est en train de dire que tout ce qui concerne la manière dont Dieu sauve, comment il le fait, on en comprend une partie, bien sûr, par notre étude de l'Épître de Paul et des autres, et de tout ce qui est mentionné sur le Seigneur dans la Bible. Et bien sûr, il est il comprend que ces choses-là sont impénétrables dans le sens d'une compréhension totale, complète et exhaustive. Dans la troisième exclamation du verset 33, il dit que ses voies sont incompréhensibles. On ne peut pas comprendre les décisions de Dieu concernant le salut des pécheurs. Pourquoi il a choisi d'accorder sa grâce salvatrice à certains hommes et non à tous? Nous ne pouvons pas non plus connaître les moyens que Dieu va utiliser pour ramener une personne au salut, ni le comment où ceux-ci se manifesteraient. Le Seigneur ne nous rend pas de compte sur ses manières de procéder. Il ne le fait pas pour le peuple juif et il ne le fait pas non plus pour les païens. Donc on était rendu à peu près là la semaine dernière. On va regarder maintenant les versets 34 à 35. Les versets 34 à 35 nous amènent à les questions que les hommes peuvent se poser concernant la manière, la décision de la personne de la Trinité concernant le salut des hommes. Et ici, il va parler du mystère de la grâce mais il va examiner la question par trois questions. Alors, les trois questions sont des questions qu'on appelle en théologie des questions rhétoriques. Les questions rhétoriques, ce sont des figures de style qui consistent à poser une question qui n'attend pas de réponse parce que la réponse est indiscutable et connue de façon certaine par celui qui la pose. Paul est un très grand théologien et il sait très bien la réponse qui est la suivante. Personne, absolument personne. Alors les questions, c'est vraiment car qui a connu la pensée du Seigneur? Il y a trois questions. Qui a connu la pensée du Seigneur? La deuxième, c'est qui a été son conseiller? La troisième, qui lui a donné le premier sera payé en retour. Alors la réponse que Paul, un très grand théologien, dit absolument personne. Dans leur orgueil, les hommes peuvent souvent faire preuve d'une grande arrogance. Ils osent questionner les décisions divines et, en quelque sorte, appeler Dieu à la barre. On va regarder un passage qui nous parle un peu de cette question-là, dans Romains, chapitre 9, versets 14 à 24. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Nullement. Car il a dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde, et j'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié. » Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité pour ceci, pour faire voir en toi ma puissance, et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. Il fait donc miséricorde à qui il veut, et il endurcit celui qu'il veut. Or, tu me diras, pourquoi Dieu se plaint-il encore? Car qui peut résister à sa volonté? Mais plutôt, ô homme, qui es-tu, toi, qui contestes avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire d'une même masse de terre un vase pour des usages honorables et un autre pour des usages vulgaires? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère préparés pour la perdition? Afin de manifester aussi la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde qu'il a préparés pour la gloire, envers nous qu'il a aussi appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les gentils. Alors, le mystère de la grâce, examiné les trois questions, on va regarder la première question. La première question, c'est que ça dit « Qui a connu la pensée du Seigneur. » Bien sûr, les hommes doivent prendre pleinement conscience qu'ils n'étaient pas présents lorsque le Dieu trinitaire, avant même la création du monde et des hommes, a pris des décisions concernant le salut par grâce en Jésus-Christ et ses bénéficiaires. Les intentions de Dieu, les pensées de son cœur et les conseils de sa volonté, cela n'aurait jamais été connu s'il ne les avait pas révélés par le Saint-Esprit. La deuxième question qui est posée, c'est celle-ci, ou qui a été son conseiller? Lorsque toutes choses ont été fixées selon sa volonté souveraine, lorsque le plan du salut de l'homme a été élaboré et convenu entre les trois personnes éternelles de la Trinité, il n'y avait là ni créature, ni ange, ni homme, seulement l'Éternel. Personne d'autre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'était présent lorsque le livre de vie a été créé, lorsque les noms des élus y ont été mis et que d'autres en ont été omis. Lorsque toutes les choses relatives aux élus, à la fois dans le temps et aussi pour l'éternité, tant pour les Juifs que pour les païens, ont été déterminées, ordonnées et réglées, et il n'y avait aucune créature qui assistait ou pouvait prodiguer des conseils sur ces questions. Toutes ces choses sont à la fois secrètes, immuables, ça veut dire qu'ils ne changeront pas, ça ne changera pas de façon définitive. Insondables, ça veut dire que peu importe jusqu'à quel point on peut essayer de comprendre et de sonder les choses de Dieu, ça va toujours rester d'une certaine façon incompréhensible de manière exhaustive. C'est bien important de comprendre ça. On peut comprendre plein de choses concernant le salut, mais une compréhension exhaustive, ça veut dire une compréhension complète, absolue et totale. Alors, les Écritures nous apprennent que même l'éternité elle-même ne suffira pas pour qu'on puisse vraiment comprendre à la perfection le plan du salut de Dieu en Jésus-Christ. Et la troisième question, c'est « Ou qui lui a donné le premier et en sera payé de retour? » Le Seigneur ne doit rien à personne et il ne rend compte à aucun être humain. On va aller regarder deux versets, deux passages là-dessus. On va aller regarder 1 Chronique, chapitre 29, les versets 10 à 14. Dieu bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent les richesses et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Et ça, c'est de la question, vraiment, il ne rend de compte à personne, mais Job, dans le chapitre 33, au verset 13, nous donne une affirmation assez catégorique. Ça dit, dans le verset 13 de Job 33, « Veux-tu donc disputer avec lui ?» parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Et là, on arrive au verset 36. Donc, c'est vraiment le mystère de la grâce qui est exalté. Quand on exalte quelque chose, on le monte à des hauts degrés. Donc, il le fait, cette volonté d'exalter la grâce de Dieu. Il le fait avec trois prépositions. Une préposition en grammaire, on les nomme les trois prépositions de, par et pour. Alors il dit c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, le Seigneur est la source de toutes choses, que ce soit la création, que ce soit la providence, que ce soit le salut souverain en Jésus-Christ. Donc, il est la source de toute chose. Ensuite, ça dit, c'est par lui. Donc, le Seigneur, Jésus-Christ, est le canal de toute chose. Les hommes, reçoivent absolument tout par son intermédiaire. Et la dernière préposition, ça dit c'est pour lui, donc le Seigneur est la fin de toutes choses sont pour sa gloire ultime. On a un très beau passage dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5, les versets 11 à 13. Alors on lit le passage. « Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Donc, il fait cette exaltation de la grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ par les trois prépositions « de » par « pour ». Et il le fait aussi pour une glorification perpétuelle. Dans la deuxième partie du verset 36, il dit « à lui la gloire dans tous les siècles ». Donc, c'est vraiment une glorification qu'il veut, qui s'étend dans l'éternité. Alors, la gloire sera donnée à Dieu par les anges et par les hommes élus à travers tous les siècles et pour toute l'éternité, pour la perfection de son être, les conseils de sa volonté, les œuvres de ses mains, tant dans la nature que dans la grâce salvatrice en Jésus-Christ. Et la troisième chose qui est dans le verset 36, c'est un assentiment, un souhait, un vif désir que ces choses-là s'accomplissent lorsqu'il dit le mot « Amen ». Je rappelle que Charles Spurgeon, j'ai fait un sermon au complet juste avec le mot « Amen ». Parce que c'est un mot extrêmement riche. C'est un mot hébreu qui signifie « qu'il en soit ainsi ». On dit qu'il a la même racine que les mots « ferme », fiable, durable, vérité et fidélité. Donc, c'est un mot extrêmement riche en sens. Et il faut se rappeler aussi, si on veut vraiment comprendre plus profondément la signification du mot « Amen », que Jésus lui-même est appelé l'Amen, le fidèle, le véritable. Dans Apocalypse, au chapitre 3, et verset 14, et dans cette partie-là, on parle de Christ, ça dit, « Écris à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Alors, après avoir étudié un texte quand même assez sommairement, aussi riche que celui-là qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Bien sûr, ces choses-là ne doivent pas demeurer, autrement dit, ça ne doit pas rentrer par une oreille et sortir par l'autre. On se devrait, chaque fois qu'on entend un sermon, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, on est tous faibles et on a de la misère parfois à mettre en application ce qu'on a étudié, ce qu'on a compris. Et bien souvent, une des causes de cela, c'est qu'on n'a pas prié. Avant d'entendre un sermon le dimanche, on se devrait toujours, dans le courant de la semaine, de prier le Seigneur à tous les jours, de manière à ce qu'il nous ouvre l'esprit, à la compréhension de sa parole, et surtout est-ce qu'on découvre les choses, les principes, les leçons qu'on se doit d'appliquer dans notre vie de tous les jours. Alors, bien entendu, après avoir étudié le texte d'aujourd'hui, il y a plusieurs applications qu'on peut faire. Genre, bien sûr, on pourrait en faire beaucoup, mais on va en faire uniquement trois qui vont correspondre un peu aux trois divisions qu'on a vues tantôt, le verset 33, le verset 34 et 35 et le verset 36. La première application que je vois, j'irais implorons le Seigneur de nous ouvrir les yeux pour que nous percevions avec plus d'intensité les merveilles de son salut, sa profondeur, sa richesse, sa relation avec la glorieuse personne de notre Sauveur Jésus-Christ, et rendons-lui grâce quotidiennement. On ne le fait pas toujours, mais on se devrait toujours de se réveiller en pensant à ce que le Seigneur a fait pour nous, en nous libérant de la perdition éternelle de l'enfer et de nous avoir accordé le pardon en son Fils Jésus-Christ, de nous avoir accordé la grâce du pardon et du salut et de la vie éternelle. Tout dans le salut devrait nous amener à l'exclamation et à la louange et, bien sûr, l'adoration. N'oublions jamais cela. Demandons au Seigneur de permettre que on se prépare la semaine pour recevoir la parole de Dieu, pour nous enrichir. Deuxième application, c'est-à-dire chose qu'on se devrait de mettre en pratique dans nos vies. Je dirais, prenons conscience qu'il est très arrogant de notre part de questionner les décisions divines quant au salut. À qui il l'accorde et pourquoi il l'accorde. Nous devons absolument éviter d'avoir l'impertinence de vouloir amener Dieu à la barre. Ses décisions sont toujours parfaites, sont toujours immuables et sont toujours pleines de miséricorde. Alors demandons à Dieu de nous donner, de vraiment comprendre qui nous sommes, dans notre misère, dans notre état de pécheur, et de comprendre aussi la grandeur, la puissance, le côté merveilleux, le côté insondable du Seigneur et de tout ce qu'il fait parfait. Donc, qui sommes-nous pour vouloir amener Dieu à la barre et questionner ses voies? Tout ce qu'il fait est parfait. Troisième application, ce serait « Méditons tous les jours sur ces merveilleuses réalités. » Tout vient de lui. Il est la source. Tout passe par lui. Il est le canal. Et tout est pour lui. Donc la fin ultime qui est sa gloire. Alors, que notre grand et glorieux Seigneur soit loué, béni et adoré éternellement. Alors, si vous le voulez, on va demander au Seigneur, en prière, de faire en sorte que le texte qu'on a étudié aujourd'hui soit qu'on puisse le comprendre et qu'on puisse l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Alors, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous avons passé aujourd'hui un peu de temps à étudier ce passage vraiment extrêmement riche. Alors, Seigneur, ouvre-nous l'intelligence à la compréhension des concepts qui ont été regardés un petit peu. Bien sûr que le passage est tellement riche qu'on ne pourra jamais vraiment le vider complètement. Alors, Seigneur, permets qu'on comprenne ces choses et surtout qu'on apprenne les principes que tu veux nous enseigner, de manière à ce que le passage ait des implications pratiques dans notre vie de tous les jours. Permet que, par ce qu'on a compris, on puisse changer les choses par ta grâce dans nos vies. Et tout cela, Seigneur, pour ta plus grande gloire. C'est ce qu'on te demande en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.